RCF. Il est 7h30, toute l'information de ce vendredi, c'est avec vous, Lucie Rispal. Bonjour Lucie.
Bonjour Pierruc, bonjour à toutes et à tous.
Clap de fin pour la Convention citoyenne sur la fin de vie aujourd'hui.
Oui, ce sera la dernière session sur la question. Emmanuel Macron se déplacera pour rencontrer les membres. Face à l'accélération des événements climatiques extrêmes, la population n'est pas prête. C'est le constat que dresse la Croix-Rouge française dans un rapport. Pour cela, elle propose un sac d'urgence face à ces aléas. On en parle dans un instant. Et puis, reportage ce matin sur le printemps de Bourges. Ce soir, c'est la chanteuse Clara Isé qui sera en concert. Chanteuse qui connaît un grand succès, vous l'entendrez.
Dernière session de la Convention citoyenne sur la fin de vie aujourd'hui.
Emmanuel Macron va rencontrer les 184 membres au CESE où ils se sont réunis lors des 27 jours de travail. Leur rapport final rendu en avril 2023 suggérait quelques options reprises dans le projet de loi. Le développement des soins palliatifs et la mise en œuvre d'une aide active à mourir sous conditions votées à 76% par les conventionnels. Un groupe qui n'est donc pas unanime. Certains membres ont alerté à plusieurs reprises sur la diversité des positions. Même si sa mission s'arrête, Soline Castel, opposée à l'aide à mourir, veut rester vigilante et veut encore participer au débat sur la fin de vie. Écoutez son témoignage.
Il y a une association qui a été créée qui a en effet ce rôle de vigilance qui se tient au courant des évolutions de ce qui se passe par la suite. Évidemment que je resterai présente et impliquée en rappelant un peu quel était notre positionnement. Alors toujours avec beaucoup de sérénité et de calme, je reste la voix de mon opinion. Je ne pense pas que l'aide active à mourir soit une bonne idée et je peux continuer d'argumenter. Et en fait, j'ai un rôle de témoin pour moi pour continuer d'en parler, d'expliquer quel a été l'exercice de la Convention citoyenne d'un point de vue démocratie participative et également mon positionnement donc à titre personnel, rester témoin de ce qui a été dit et pourquoi ça a été dit pour qu'on garde ça en tête et que ça ne soit pas dans l'oubli.
Emmanuel Macron interviendra au Conseil économique, social et environnemental ce soir à 18h. Notre Europe est mortelle, elle peut mourir. Le président Macron, justement, a dressé hier un portrait alarmiste à un mois et demi des élections européennes, compliquées pour son camp, exhortant à un sursaut des 27 pour bâtir une Europe puissante et une défense crédible. Durant presque deux heures, devant 500 invités à la Sorbonne, il a décrit une Europe dans une situation d'encerclement face notamment aux grandes puissances régionales.
Les agences de notation Fitch et Moody's vont actualiser la note de la dette publique de la France.
Malgré les coupes dans le budget annoncées par le ministère de l'économie, ces notes risquent d'être dégradées à cause du déficit et des prévisions de croissance en baisse. Mais pour l'économiste Cyril Blesson, il ne devrait pas y avoir trop de conséquences négatives.
La note de la France risque de baisser parce que la situation de nos finances publiques est un peu dégradée, même sérieusement dégradée, hein, avec une dette publique très élevée, un déficit public important. Après, est-ce que ça aura véritablement des conséquences sur les taux d'intérêt qu'exigent les investisseurs pour prêter au secteur public français? C'est pas évident. Dans les faits, je sais que les Français ont beaucoup tendance à se regarder le nombril et à croire que c'est nous les pires dans le monde, mais les finances publiques sont dégradées de par le monde. En particulier post-Covid. Il y a très peu d'États qui ont des finances publiques en situation solide à l'heure actuelle. Or, les investisseurs recherchent toujours les dettes publiques parce que c'est des actifs relativement sûrs. Dans cet environnement, on ne devrait pas avoir de choc significatif sur le coût de notre financement de notre dette publique.
RCF, il est 7h33. Face à l'accélération des événements climatiques extrêmes, la population n'est pas prête.
C'est le constat que dressent la Croix-Rouge française et le Crédoc dans un rapport publié hier. Pourtant, par exemple, 2 Français sur 3 sont exposés au risque d'inondation. Alors la Croix-Rouge émet des propositions pour mieux nous préparer individuellement et collectivement face à ce risque climatique. Comment se former aux gestes qui sauvent, améliorer le soutien psychologique des sinistrés, mais aussi que tous les citoyens se dotent d'un sac d'urgence. Aujourd'hui, seule 1 personne sur 10 en a un. Mais alors, que faut-il mettre dans ce sac précisément? Les réponses de Léa Liniz, chargée de formation à la Croix-Rouge.
En fait, le sac d'urgence doit correspondre aux 5 besoins fondamentaux auxquels l'homme doit répondre en cas de catastrophe. Ces 5 besoins sont se soigner, se protéger, se signaler, boire et manger. Donc dans ce sac d'urgence, on doit y mettre des éléments pour répondre à 5 besoins. Ça peut être une couverture de survie, des denrées alimentaires, de l'eau, des médicaments, un kit de premier secours. On recommande à chaque foyer de créer son propre sac d'urgence en fonction des besoins de sa famille, de son foyer, de le faire en activité familiale. Comme ça, tout le monde sait ce qu'il y a dedans où est-ce qu'il se trouve et de le mettre à jour régulièrement. Par exemple, si vous avez des jeunes enfants dans votre foyer, vous pouvez mettre le doudou du petit, les médicaments des parents, différents items comme ça pour répondre aux besoins de votre famille. Il faut se préparer en cas de catastrophe. Pour savoir les catastrophes auxquelles vous êtes soumis, vous pouvez regarder le site georisque.fr pour avoir accès à différents risques auxquels vous êtes confrontés. Et du coup, pour y répondre en catastrophe, avoir votre sac d'urgence à la maison peut être un atout indispensable.
Dans ce sac, vous pouvez aussi ajouter des lampes ou encore une radio avec des piles de rechange pour vous tenir informé. Des aéroports français vidés d'une partie de leurs passagers habituels, des centaines d'avions cloués au sol. Le transport aérien a été très perturbé en raison d'une grève hier d'une partie des aiguilleurs du ciel français, indignant une nouvelle fois les compagnies. L'an dernier, les agressions, les incivilités et les expressions d'intention suicidaire des usagers de France Travail, l'ancien Pôle emploi, ont augmenté de 12% selon un document interne révélé par le site Politis. Près de 16 000 signalements d'agressions ont été notifiés par les salariés à travers les 900 agences de France.
Le gouvernement israélien assure que le lancement de son offensive terrestre à Rafah dans la bande de Gaza n'est plus qu'une question de temps.
Presque 1,5 million de Palestiniens qui ont fui la guerre vivent actuellement dans cette ville située dans le sud de l'enclave. Les précisions avec vous, Marion Degas.
Israël a déjà bombardé plusieurs secteurs de la bande de Gaza, comme la ville de Rafah. Plus d'1,4 million de Palestiniens ayant fui la guerre vivent dans cette ville du sud de la bande de Gaza. D'après des sources égyptiennes, Israël se préparait à évacuer certains d'entre eux vers Ran Younes, une ville distante de 3 km. Pour de nombreuses ONG, il sera impossible pour beaucoup de Palestiniens de quitter Rafah et l'offensive devrait causer de lourdes pertes civiles. Les pays occidentaux, États-Unis en tête, ont demandé à Israël de ne pas attaquer la ville. Mais dans la nuit, de mercredi à jeudi, l'armée israélienne a intensifié ses frappes aériennes. Rafah, frontalière de l'Égypte, est considérée par l'État hébreu comme le dernier bastion du Hamas.
Merci Marion Degas pour ces précisions. Les États-Unis ont parallèlement annoncé avoir commencé la construction d'une jetée à Gaza, un projet destiné à faciliter l'acheminement de l'aide humanitaire dans le territoire palestinien. Des centaines d'arrestations, des policiers anti-émeutes face à des étudiants qui ne décolèrent pas. La tension reste électrique sur les campus américains où le mouvement de protestation contre la guerre à Gaza se généralise dans tout le pays. Il n'est pas trop tard pour que l'Ukraine l'emporte dans la guerre face à la Russie, à condition que les Occidentaux tiennent leur promesse de lui fournir davantage d'armes. C'est ce qu'a affirmé hier le chef de l'OTAN. Et puis un record inégalé depuis 1961, la production mondiale de vin a baissé de 10% en 2023 avec 237 millions d'hectolitres produits sur l'année. C'est ce qu'a annoncé l'Organisation internationale du vin hier.
Tout autre chose, retour en France, une très belle voix et de magnifiques chansons.
Clara Isé sera en concert ce soir au Printemps de Bourges. La chanteuse de 31 ans connaît un beau succès. Sa chanson « Douce » a d'ailleurs été nominée aux dernières Victoires de la Musique. Un concert à voir sur la scène du Palais d'Oron, Guillaume Martin de Guéret.
Toi qui crois que je suis douce, respecte quand je te repousse.
Les fans sont impatients, mais Clara Isé aussi attend ça depuis longtemps. La chanteuse était programmée au festival en 2020, annulée à cause du Covid. Elle va enfin pouvoir faire son premier printemps.
C'est un rendez-vous super important et c'est un des premiers festivals de la saison, donc il y a un truc où ça nous réveille, ça nous donne envie.
L'artiste a sorti son premier album Océanonox en septembre dernier, sur lequel elle a travaillé pendant 4 ans.
Pour moi, c'est un album qui parle de la nuit qui nous habite, quoi. À la fois individuellement, collectivement. C'est des chansons avec une prod qui est assez hybride, qui a à la fois des outils assez anciens, de cordes, de chœurs, d'utilisation des polyphonies un peu particulière et en même temps de choses plus électroniques, de synthé. C'est un album qui parle de comment désirer ce qui arrive.
Des chansons à découvrir sur scène où Clara Isé sera accompagnée de 4 musiciens.
On les a complètement réarrangés pour le live. Il y a Peter qui est au sax. Et Peter, il a une technique de sax qui est celle du souffle continu. Il utilise beaucoup le sax comme aussi un instrument, pas seulement de soliste, même s'il y a plein de moments extraordinaires où il est soliste dedans, mais aussi de texture et de façon de rentrer dans une forme de transe avec le souffle.
Un beau plateau au Palais d'Oron où vous pourrez également entendre Yamé, Solane et Thomas de Pourquerie.
Et sachez, chers auditeurs, qu'il reste encore des places pour le concert. Rendez-vous à 20h ce soir au Palais d'Oron.